Dans nos communautés, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers amis, chères auditrices, chers auditeurs de Radio Alliance Plus, bienvenue pour cette émission. Je vous propose aujourd'hui de reparler de l'amitié judéo-chrétienne à l'occasion notamment du décès d'Armand Abécassis qui nous a quittés à l'âge de 93 ans le 29 avril dernier à Paris. Nous reviendrons dans la deuxième partie de notre émission en parlant de lui, mais pour le moment je vous invite à écouter une partie d'une émission que j'avais enregistrée le 31 octobre dernier avec Elisabeth Vernet, présidente de l'Amitié judéo-chrétienne de Nîmes. Elle nous expliquait les débuts de l'Amitié judéo-chrétienne avec Jules Isaac, elle nous parlait de l'historique de l'amitié judéo-chrétienne, comment cela s'est construit et bien sûr quels en sont les objectifs principaux. Vous allez l'entendre maintenant et puis nous revenons ensemble ensuite après un instant musical pour parler de Armand Abécassis. Je suis aujourd'hui avec la présidente de l'Amitié judéo-chrétienne, Elisabeth Vernet. Bonjour Elisabeth Vernet.
Bonjour Christiane.
Merci d'être avec moi pour cette émission où nous allons parler ou reparler un peu de l'amitié judéo-chrétienne. Pour que vous nous la présentiez à nouveau, je précise que nous avions fait une émission sur ce sujet il y a quelques années, que les auditeurs et auditrices peuvent aller fouiner dans mes archives dans nos communautés s'ils veulent la réécouter. Et voilà. Donc là, on va présenter l'amitié judéo-chrétienne d'une manière générale et celle de Nîmes. Donc je vous laisse la parole, Elisabeth Vernet.
Eh bien merci. Vous dire que l'Amitié judéo-chrétienne de France est une association loi 1901, fondée le 26 février 1948. Par Jules Isaac, historien, et Edmond Flegg, poète. L'Amitié judéo-chrétienne de Nîmes existe, elle, depuis 1949 et constitue l'un des 40 groupes locaux. Cette Amitié judéo-chrétienne de France est elle-même affiliée depuis les entretiens de Sigismund au Conseil international des chrétiens et des juifs, né en 1947, lors de la conférence en Suisse. Un peu d'histoire d'abord, et c'est important.
Oui.
Jules Isaac est mort en 1963. Il est auteur de célèbres manuels où nous avons appris, vous et moi, Christiane, les livres d'histoire Malé et Isaac. Il est né à Rennes d'une famille de juifs lorrains, militaire dans l'armée française de père en fils et, comme on en entend souvent parler avec Dreyfus et ceux qui s'en suivent, largement assimilé, faisant partie de la culture française, républicain. À 20 ans, il rencontre et devient ami avec Charles Péguy, catholique, qui lui révèle l'injustice du procès Dreyfus. Et le voilà embarqué, à cause de sa passion pour la vérité et la justice, il devient lui aussi Dreyfusard. Agrégé d'histoire, en 1902, il travaille à son livre d'histoire, le fameux dont on a parlé, et puis il s'efforce de tirer les conséquences du premier conflit, la guerre de 14-18, où il a perdu son ami Malé d'ailleurs. Fidèle à la tradition républicaine de la gauche, il est membre de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen, et puis du comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Il s'engage parallèlement en faveur d'un rapprochement entre la France et l'Allemagne. Et en 36 à 59 ans, il est nommé inspecteur général de l'instruction publique. Mais voici que patatras, 4 ans plus tard, 1940. Il est tout d'abord révoqué en vertu du statut discriminatoire des Juifs par le gouvernement de Vichy. Chassé d'université, déchu de ses droits civiques, réduit à l'état de paria, le choc est pour lui inconcevable, brutal. Et c'est là qu'il prend conscience qu'il est juif malgré lui, figurez-vous. Et il dit face aux persécuteurs, j'acceptais pleinement d'en être, il fallait donc accepter aussi un nouveau combat, passer au crible les griefs iniques dont on prétendait nous accabler, nous les Juifs. Il se réfugie en zone libre avec sa famille en 41. Et là, il rentre en résistance. Il écrit des pamphlets pour défendre la démocratie bafouée. Et c'est là qu'en 42, il est ébloui par la première lecture qu'il fait des évangiles, où il découvre à sa grande stupéfaction que l'enseignement traditionnel de l'Église a trahi les évangiles. Or, c'est cet enseignement qu'il qualifiera de mépris, qui est pour lui à la source de l'antisémitisme chrétien. C'est cela qu'on appelle l'antijudaïsme, qui a préparé et conduit à ce qui est en train de se passer en Europe, qui va aboutir à la Shoah, en étant 41. Pour lui, il faut revenir au texte, à la vérité historique et de celle de Jésus, et réparer le christianisme là où il a failli en condamnant Israël depuis presque 2000 ans. Alors il commence la rédaction de son livre « Jésus et Israël » qui va paraître en 48. Et alors là, en relisant mes notes, figurez-vous que je découvre que c'est aussi un 7 octobre 1943 que Gilles Isaac revient chez le coiffeur. Et là, il apprend que la Gestapo vient de rafler toute sa famille. Seul, son fils s'échappera par la fenêtre. Sa fille, sa femme, son gendre mourront en déportation. De Drancy, sa femme lui écrit ce qui relancera et orientera sa vie dans les 20 années qui lui restent à vivre. Et là, je vais le dire, parce que la place des femmes est capitale. Elles sont toujours derrière. Mon ami, mon bien-aimé, nous partons demain et c'est très dur et la plus grande souffrance est de ne rien savoir de toi depuis l'affreux jour de la séparation. Mon ami, garde-toi pour nous et confiance et finis ton œuvre que le monde attend. Le monde ? Mais quelle prétention, n'est-ce pas ? Que va-t-il donc faire ce petit bonhomme-là ? Parce que quand on le regarde, c'est un petit maigroulé, hein ? Alors il va faire 3 choses très importantes.
Oui.
Il va continuer à écrire des livres pour montrer historiquement la responsabilité chrétienne dans le travail de fond qui a permis à l'antisémitisme nazi de s'épanouir en France et en Europe au XXe siècle. Ensuite, il va rencontrer du monde. Et puis, il y a des gens qui vont venir avec lui. Ce fameux Sigisberg. Mais c'est qui, Sigisberg en Suisse, août 47, 70 chrétiens, protestants, catholiques, juifs de 19 pays qui constitue la base des 10 points de Sigisberg, dont le but sera de transformer l'enseignement chrétien du mépris vis-à-vis du judaïsme en enseignement de l'estime et du respect. Et ça, il va le prendre sous son bras et il va aller le porter sous un truc pas préparé du tout. Il va rencontrer Pie XII en 49. Par hasard, il adore la peinture, il est à Rome et il voit qu'il y a un entretien avec Pie XII. Il y va. Il lui dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux réviser la prière du Vendredi Saint, Oremus pro perfidis Iudeis ? Et puis, il va rencontrer Jean XXIII en 1960 et il lui demande d'ouvrir le Concile de Vatican II au problème des relations entre juifs et chrétiens. Promesse qui sera réalisée 2 ans plus tard et il ne verra pas cela. Et c'est la déclaration de Nostra Aetate le 28 octobre 1965. Et il a tout juste 60 ans cette année, il ne le connaîtra pas. Il est mort, il a semé, et vous allez voir quoi, c'est pas du grand n'importe quoi. Parce qu'il va être un des fondateurs du troisième pôle de l'Amitié Judéo-Chrétienne de France, en 48, à Aix et à Paris. Et c'est là qu'il conçoit le remède le plus efficace à la vieille haine antisémite, ce qui a été semé par l'enseignement. C'est par l'enseignement qu'il faut l'extirper. Et l'idée essentielle était de mettre en valeur les racines profondément juives du premier christianisme pour que judaïsme et christianisme puissent à nouveau se rencontrer sur une base saine et solide. Alors je vais citer maintenant Édouard Roberecht, que nous invitons très souvent au niveau de l'amitié judo-chrétienne, qui est un philosophe qui enseigne la pensée juive à l'université d'Aix-Marseille. Et voici ce qu'il écrit. La Shoah n'aura pas été possible sans l'enseignement du mépris distillé pendant près de 2000 ans par l'Église au cœur même et sous le couvert de son message d'amour. Excusez-moi, je vais être violente. Ce sont les propos de Edouard Robrecht. Il faut analyser ce qui s'est passé. Et ensuite, Jules Isaac a cherché à montrer que le christianisme est né du judaïsme et n'aurait jamais pu se constituer sans lui. Il fut un fait juif avant d'être un fait chrétien, et la persécution des juifs par les chrétiens s'avère être ainsi un des malentendus les plus terrifiants de l'histoire qui demande et exige réparation. Et puis il y a eu le 28 octobre 65, Nostra Aetate, déclaration entre l'Église et les juifs. Et Jacqueline Cuche va dire, elle est présidente de l'Amitié judéo-chrétienne de France à cette époque, cette dame que nous allons inviter bientôt, nous l'invitons le 6 novembre prochain, elle fait remarquer que c'est le dialogue entre juifs et chrétiens qui a permis que soient pris en compte les dialogues entre les autres religions de l'Église catholique, comme si le rapport aux juifs était premier et la source de tout. Alors l'Amitié judéo-chrétienne de France va donner cette année son prix à un homme qui s'appelle le frère Jean-Marie Coudray, parce que cette amitié récompense des hommes et des femmes qui sont engagés dans le dialogue. Et voici que l'Église, et par là l'ensemble des chrétiens, reconnaît aujourd'hui que Jésus était juif, comme Marie d'ailleurs. Les apôtres, les premiers chrétiens, qu'il existe un grand patrimoine spirituel commun qu'elle partage avec le peuple juif, qu'elle condamne aujourd'hui l'accusation de déicide, la théologie de la substitution, et qu'elle ne se présente plus comme le nouvel Israël, et qu'elle reconnaît la permanence de la première alliance. Mais ces avancées sont surtout le fait des responsables. On ne peut pas en dire autant de l'ensemble du peuple chrétien. Comment nous informer, comment diffuser tout cela? Alors il y a eu d'énormes travaux, aussi bien du côté juif que chrétien, que catholique, que protestant. Et en novembre 2015, temps d'attentats terroristes majeurs pendant toute l'année, Chaim Korsia, le grand rabbin de France, dira « Le temps d'une fraternité héritée du don de la Torah n'est-il pas arrivé dans ce monde moderne ? Nous sommes passés de l'enseignement du mépris à celui de l'estime. Il faut maintenant passer à la co-responsabilité et affronter ensemble les défis du monde. » Et là, je vous squeeze 70 ans de travail d'un côté et de l'autre avec des tiraillements majeurs. Et ces petits groupes apprennent à étudier ensemble autour des textes, souvent le Premier Testament. Il s'agit de la découverte par les chrétiens des trésors spirituels cachés dans le judaïsme, surtout dans le domaine de l'interprétation des Écritures. On en revient à relire le texte en hébreu pour la Torah et en grec pour les évangiles. Mais qu'est-ce qu'il a été écrit et comment ça s'interprète? Reste encore des défis à travailler, tels que des sujets que Madame Cuche a élaborés quand elle est venue ici pour les 70 ans de l'Amitié judéo-chrétienne de France. Elle était alors présidente. Et voici qu'il faut qu'on se pose des questions sur l'élection d'Israël, sur le particularisme et l'universalisme, sur l'attachement du peuple juif à sa terre, sur la loi, sur la foi et sur le nom à Jésus, le Christ des Juifs. Ça, c'est qu'un tout petit exemple, donc des choses qui sont travaillées. Vous voyez ? Voilà. Je voudrais pointer deux objectifs très capitaux de l'Amitié judéo-chrétienne de France. Substituer entre judaïsme et christianisme la connaissance, la compréhension, le respect et l'amitié aux malentendus séculaires et aux traditions d'hostilité. Enrichir notre compréhension du christianisme et du judaïsme, seule condition d'un dialogue authentique et fraternel. Combattre l'antisémitisme, le racisme et toute haine des autres cultures et religions. Et réfléchir à ce que judaïsme et christianisme renouvelés par cette rencontre peuvent apporter aujourd'hui, dans le respect profond de chaque tradition. Thank you.
Chers amis, vous êtes toujours sur le 103.2, vous écoutez l'émission Dans nos communautés avec Christiane Hervault. Vous savez que vous pouvez écouter Radio Alliance Plus aussi en DAB+, maintenant, ou bien sur nos podcasts sur radioallianceplus.fr. Nous continuons notre émission, commencée par une rediffusion d'une partie d'une émission que j'avais enregistrée avec Elisabeth Vernet, qui nous parlait de l'amitié judéo-chrétienne de France et en particulier aussi à Nîmes. Elle nous retraçait l'historique de l'amitié judéo-chrétienne. Et puis maintenant, je fais le lien avec l'amitié judéo-chrétienne pour parler d'Armand Abécassis, qui est décédé le 29 avril dernier à l'âge de 93 ans à Paris. Et Armand Abécassis avait reçu un prix de l'amitié judéo-chrétienne en 2009. Alors, Armand Abécassis est né en 1933 au Maroc, à Casablanca. Il a grandi dans le Mela de Casablanca. Il a rejoint la métropole pour intégrer l'école d'Orsay, ensuite destinée à former l'élite intellectuelle de la communauté juive française. Et donc, il a été ensuite professeur, philosophe, professeur enseignant de philosophie, et il avait aussi beaucoup d'autres cordes à son arc, puisqu'il était docteur d'État, certifié en langue sémitique, ainsi qu'en langue arabe, et il a reçu de nombreux prix, donc le prix de l'Académie des sciences morales et politiques pour son œuvre sur la pensée juive. Il a reçu donc le prix Tenouchi de l'éducation, le prix Spiritualité d'aujourd'hui en 2020 pour son livre Jésus avant le Christ, et le prix de l'amitié judéo-chrétienne en 2009. Il y aurait bien sûr beaucoup d'autres choses à dire à son sujet. Il a été vraiment une figure majeure de la pensée juive en France et il a été fortement engagé dans le dialogue judéo-chrétien. Il fut avant tout un homme de l'étude, pour qui les textes ne sont pas sacrés parce qu'ils sont divins, mais parce qu'ils rendent l'homme plus humain. Alors, en guise d'hommage, vous avez un site qui s'appelle Academ, A-K-A-D-E-M. Le site Academ, c'est un campus numérique juif, un site web donc, consacré au judaïsme et à la culture juive. Et sa mission, c'est d'ouvrir une fenêtre sur les multiples composantes du monde juif, en s'adressant au plus grand nombre, juifs ou non-juifs. Et c'est un site gratuit qui est conçu comme un service public de la culture juive. C'est donc aussi un site de référence en la matière. Et à l'occasion de la mort d'Armand Abécassis, Academ met en ligne toutes les conférences, toute la trajectoire de Armand Abécassis. Vous avez de nombreux entretiens, de nombreuses conférences, toute la bibliothèque d'Armand Abécassis, et donc vous aurez de quoi faire pour vous plonger dans tout ce qu'il a pu produire, donner, transmettre, car c'était vraiment la transmission était vraiment le sujet principal et quelque chose de vraiment très important pour lui. Je vous propose de l'écouter quelques minutes, malheureusement seulement, 8 minutes exactement. Il avait été interviewé par Antoine Mercier et il était donc il l'avait interviewé sur sa vie et donc sur une très longue émission. Et moi, je vous propose d'écouter 8 minutes de cette entretien, 8 minutes autour de la transmission, justement, transmettre ses fondamentales et le christianisme, une affaire juive. Voilà, je vous propose de l'écouter maintenant et nous revenons ensemble pour la fin de notre émission après cette écoute-là.
Armand Abécassis, vous avez été toute votre vie un enseignant. L'enseignement.
Oui.
Qu'est-ce que c'est le principe même de l'enseignement, comment ça marche?
Oui, alors on dit, donc, c'est pas spécifique à la religion, au judaïsme en particulier. Bien sûr, il y a la tradition, il faut la transmettre. Mais c'est un principe fondamental. Il n'y a pas de peuple qui puisse vivre sans la tradition et sans la transmission. Il n'y a pas de peuple qui n'ait pas de tradition et une tradition qui doit se transmettre, sinon le peuple s'arrête. Donc c'est fondamental, c'est pas spécifique au peuple juif. Pas. La transmission, la tradition et la transmission, c'est la courroie de la perpétuité qui permet la perpétuité d'un peuple et d'une culture. Ça c'est clair. Mais le problème maintenant, qu'est-ce qu'il y a au-delà? Qu'est-ce qu'il y a au-delà? Par exemple, je prends un exemple simple, farfelu. Le professeur des mathématiques, il y a une histoire des mathématiques, il y a une science des mathématiques dans l'époque où il enseigne. Et l'élève auquel il enseigne en a besoin pour trouver sa place. S'il se fait mathématicien, il peut trouver sa place dans la société. Mais ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est dire quelque chose d'autre. Non. Pourquoi le professeur de mathématiques n'enseignerait pas? Ça, c'est un début de la tradition et de la transmission au-delà de la perpétuité de l'histoire et puis de la pérennité du peuple, ça, la pérennité des mathématiques. Former l'enfant, le faire découvrir à travers l'exercice mathématique et la leçon mathématique de ce qu'il ne peut pas vivre sans la rigueur, sans la clarté, sans la lucidité. Donc ça va beaucoup plus loin simplement qu'avoir un métier, etc. Pas un contenu. Mais faut, pas instruire, mais éduquer à cela. De même pour le professeur d'histoire, réveiller la mémoire, l'importance de la mémoire, au-delà de la transmission de la raison. Pas. Et finalement, pour nous, c'est autre chose, dans la Gemara, dans le Zohar surtout, transmettre, ça va encore au-delà de cela. C'est réveiller chez l'autre le désir de transmettre aussi. Comment? En sachant que ce qu'on lui a transmis est fondamental. Et s'il comprend que c'est fondamental et en quoi ça a un sens fondamental pour l'humanité, pas seulement pour son peuple, alors il a le désir de transmettre aussi, de réveiller le désir de transmettre chez l'autre. Et alors on dit que la transmission a réussi.
C'est ça la transmission, c'est de ça. Transmettre l'envie de transmettre.
L'envie de transmettre.
C'est ça que vous dites. On va arriver à la période où vous êtes revenu ensuite à Paris, parler peut-être de la chose, choses plus actuelles.
Ouais.
Mais un petit mot peut-être avant du dialogue judéo-chrétien,
oui.
Dans lequel vous êtes beaucoup engagé depuis longtemps.
Oui.
Pourquoi ça vous paraît si important?
Pour deux raisons, qui m'ont apparu beaucoup plus tard. J'étais engagé dans le dialogue judéo-chrétien, mais pas j'étais engagé. Et puis au fur et à mesure que ça avançait, j'ai pris conscience de cela. Pourquoi? Parce que ce monsieur Delmas, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était le patron de mon père, à table le Shabbat, nous on ne comprenait rien, il parlait énormément de judaïsme, christianisme. Il parlait. Il y a un certain nombre de. Combien de préjugés les chrétiens traînent dans leur esprit contre le judaïsme. Et pendant 2000 ans, ils sont allés très 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 loin sur les juifs au Moyen-Âge, pas. Il faut absolument discuter avec eux pour leur arracher ces préjugés de la tête. On ne leur demande pas de nous aimer, mais de nous respecter et d'éliminer ces préjugés. Ils ne le feront pas d'eux-mêmes. Il faut que nous, les Juifs, nous leur apprenions ça. Maintenant, de plus en plus, ils commencent à faire méprisement parce que nous dialoguons avec eux. Il y a une deuxième raison, alors elle est métaphysique, c'est que le christianisme est une affaire juive. Jésus était juif, à part la croix. Il obéissait. Jésus marchait avec les petits lignes. Dans l'évangile, il mangeait kasher. Il observait Shabbat. Il faisait des draps chauds dans le Shabbat, la synagogue du Shabbat, la Capharnaüm. C'est un juif, il n'était pas chrétien. Jésus ne sait pas ce que veut dire le christianisme. Il viendrait aujourd'hui, il verrait une église, il dirait qu'est-ce que c'est ça. Il entre dans une synagogue, il n'y a pas de problème, les yeux fermés. Et donc, le christianisme est une affaire juive. Alors, moi, je cherche à savoir précisément, par mes recherches et par le dialogue avec les chrétiens, quelle est la nature de cette crise au temps de Jésus pour que le message de Jésus, qui n'est pas encore chrétien, ce sera plus tard, le christianisme c'est un Asie mineure que ça va naître. Le mot chrétien, christianisme, n'est pas né en Judée avec Jésus. Jésus ne savait pas ce que c'était. C'est en Asie mineure. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que Jésus puisse essayer de répondre à cette crise? Je veux savoir ce que Jésus, lui, a voulu répondre à cette crise en dehors de ce que l'Église a fait de son message. Et dans le christianisme, est une affaire juive. D'autant plus que quand on lit l'évangile, même si c'est interdit, mais je sais qu'avec Rabbi Akiba et la Gemara, j'ai perdu le monde à venir parce que j'ai lu des textes interdits. Bon, ça me rassure parce que je vais trouver beaucoup de copains là avec moi là-haut. Donc je suis tranquille. Entendez, l'évangile, on ne peut rien refuser. Il y a une seule chose qui est venue plus tard avec le Concile de Nice, plus tard au 3e, 4e siècle, c'est la christologie, c'est-à-dire le fait qu'il soit Dieu. Mais en dehors du fait qu'il l'ait déclaré comme Dieu, ça va plus tard, il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Jamais il a dit qu'il était fils de Dieu. Il parle de fils de l'homme, comme Ézéchiel, Ben Adam, en hébreu, les choses sont courantes. Et à part cela, je ne peux rien refuser de l'Évangile, pas. Les miracles, quoi, mais c'est nous qui leur avons pris le miracle. Les miracles de l'Évangile, sans rien par rapport aux miracles qu'on raconte dans la Gemara, absolument, et puis surtout dans la Torah. C'est extraordinaire. Et c'est cela, sur le plan métaphysique, qui va permettre ce dialogue entre les Juifs et les chrétiens pour savoir que nous servons le même Dieu, mais chacun à sa manière. Et que Dieu a besoin des chrétiens comme il a besoin des Juifs. Il n'y a pas de doute là-dessus. Qu'on rétablisse cette réconciliation et ce pont, de manière que chacun comprenne exactement ce que Dieu demande de lui quand il est juif ou quand il est chrétien. Pour que les chrétiens ne disent plus que c'est lui le véritable Israël, il détourne la vocation, et pour les Juifs, il n'est plus peur du chrétien. Et quoi qu'on dise, même si on est contre le christianisme, et Dieu sait les critiques qu'on peut faire des chrétiens pendant 2000 ans, ce qu'ils ont fait souffrir les Juifs au nom de Dieu, bien sûr, et beaucoup plus c'est la mort qu'ils ont aussi appliqué aux Juifs pendant le Moyen-Âge, il faut être modé béhémet, il faut reconnaître la vérité. Grâce au christianisme, ça fait pendant 2000 ans, des milliards de barbares ont reçu un minimum de morale et de spiritualité. Donc ils ont fait du bon travail. La déclaration des droits de l'homme. Mais à nous, on va apprendre ce que veut dire le respect de l'homme, la liberté, l'égalité, la fraternité, etc. À nous juifs. Ouais. Et à qui la déclaration des droits de l'homme? C'est vrai qu'il y a eu des juifs qui ont participé, mais c'est parce que l'Occident a été préparé par les chrétiens. Ben. Si j'ai dit, bien sûr, on a beaucoup de choses à dire à l'Église. Ouais.
Vous êtes toujours sur le 103.2, vous écoutez bien Radio Alliance Plus. Dans nos communautés se termine maintenant, après avoir eu l'occasion pour vous d'entendre Armand Abécassis. Armand Abécassis, figure majeure du judaïsme, qui a fait un travail très approfondi et de relations entre juifs et chrétiens, et qui avait reçu le prix de l'amitié judéo-chrétienne en 2009. Vous avez pu l'entendre dans une interview avec Antoine Mercier. Je vous ai proposé un court extrait où il parlait de la transmission qui était fondamentale pour lui. Eh bien, pour le moment, je vous laisse. Je vous laisse pour le week-end, je vous laisse pour la semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine.